Administrateur du musée d'histoire militaire de Lyon et de sa région, qui n'est pas très très loin d'ici, puisqu'il est au quartier général Frère sur les bords du Rhône. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, puisque cette conférence avait été programmée il y a plus de 2 ans, Covid oblige, donc après plusieurs renvois, donc on peut enfin la tenir. Alors une petite explication pourquoi je m'intéresse à cette période, c'est qu'en reprenant le musée d'histoire militaire de Lyon et de sa région, il y avait des spécialistes pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale, et évidemment pour le 19e siècle, il n'y avait personne. Donc le président a été obligé de prendre en main ce dossier, celui donc de la Révolution de Lyon et des combats de 1793. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je commence par une petite épitaphe pour rendre hommage à Madame Roland. « Aux libertés que de crimes on commet en ton nom », c'est un écrit de Lamartine, mais il semblerait qu'il soit plutôt apocryphe. C'est pas trop fort, vous ? Ça pourrait aller. Et puis, comme dit Oscar Wilde, sous le nom de livre d'histoire, nous enseignons à nos enfants le calendrier criminel du monde. Phrase terrible, mais ô combien vraie. Et voici la maison de Madame Roland en Beaujolais, où elle habitait avant de tenir salon à Lyon. Donc, la ville de Lyon, c'est une ville turbulente. C'est une ville turbulente. Il y a toujours des conflits entre les marchands et les fabricants. Les fournisseurs qui sont fournisseurs de matières premières et vendeurs d'étoffes, et avec les canuts, maîtres ou compagnons, qui confectionnent à domicile ces étoffes. On ne peut pas aborder 1793 et les combats sans faire un retour en arrière sur l'histoire. Elle est marquée par 2 grands conflits, en 1744 et en 1786, des grèves qui ont été sévères, qui ont permis aux canuts et aux maîtres ou compagnons de vendre directement. Et ça a été bloqué par le roi, par un édit royal, qui a confirmé que seuls les marchands fabricants avaient l'autorisation de vendre leurs produits. Donc vous voyez une ville qui vit d'un monopole, avec 180 000 habitants au total en 1789, et un produit presque unique, une fabrique qui tourne avec 700 négociants marchands fabricants. Le négociant, c'est qui ? C'est l'homme qui est propriétaire de la marchandise et qui va la faire traiter à façon par 7000 chefs d'atelier. Et 30 000 ouvriers compagnons vont travailler pour ces 7000 chefs d'atelier. Donc vous voyez tout de suite la nature des conflits qui peuvent se dérouler dans cette ville. C'est que chaque négociant a à sa botte 10 chefs d'atelier. Donc s'il n'est pas content d'un chef d'atelier, il y en a 9 qui attendent pour prendre sa commande. Mais ce n'est pas le principal point de ce problème économique. Le principal point de ce problème économique, c'est que le négociant ne paye son fournisseur que quand la marchandise est vendue. Donc ça va faire quelques objets de friction qui explique que pratiquement tous les ans, les canuts descendaient dans la rue pour demander des augmentations de salaire. Alors la ville de Lyon, la voilà. La plus belle gravure que j'ai trouvée, c'est celle de Mérian de 1638. Elle est tellement connue que finalement, on s'aperçoit qu'elle a été copiée, elle a été longuement copiée au fil des ans. Et surtout, elle a l'avantage de montrer la ville vue du côté de la Croix-Rousse et de montrer les points essentiels qui vont être les fortifications. Vous avez ici la fortification de la Croix-Rousse. Vous avez ici les fortifications qui vont englober la colline de Fourvière, donc qui vont être importantes dans les combats futurs. Et le Rhône est tellement tumultueux que finalement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de fortifications de ce côté. Et vous avez ici le rempart des terreaux. Parce que la ville, d'abord, s'était développée dans la presqu'île au niveau des terreaux. Et puis elle s'est ensuite agrandie pour que les canuts puissent monter leurs ateliers sur la colline de Fourvière. Et on a fait cette deuxième ligne de défense qui, aujourd'hui, est le boulevard de la Croix-Rousse qui a remplacé ces fortifications. Voilà donc une deuxième carte. La différence de cette carte, c'est que vous avez 2 ponts supplémentaires sur la Saône. Il n'y en avait qu'un. Vous en avez déjà deux qui apparaissent. Donc finalement, au fil des ans, on va copier la carte et on va l'enrichir des produits nouveaux de la ville. Voici la ville avant les travaux de l'architecte Perrache. Le confluent du Rhône et de la Saône se fait au niveau des Nets. Et ici, ce ne sont que des graviers sur le tout le long du Rhône. Et donc l'architecte Perrache va rattacher ces graviers. Vous avez ici donc les premiers travaux d'approche de l'architecte Perrache qui vont permettre l'extension de la ville vers le sud, puisque vous voyez que le premier carcan de la ville, ce sont ces deux fleuves, et le deuxième carcan, ce sont ces fortifications qui vont poser des problèmes tout au long des âges. Et ici, sur la rive gauche de la Saône, c'est l'ancien empire romain germanique, et c'est surtout le Piémont-Sardaigne qui est propriétaire, donc ça rend beaucoup plus difficile la conquête de cette presqu'île. Mais en 1787, l'architecte Morand va construire un deuxième pont sur le Rhône, un deuxième pont sur le Rhône qui va permettre de conquérir ce qui va devenir le quartier des Breteaux. Donc voilà pour l'évolution de l'architecture. La ville proprement dite, ben je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques photos de l'époque. Voici le Fourvière avec les ruines du théâtre romain. Voici notre belle place Bellecour, plutôt en couleur, qui reste la plus belle place d'Europe. Vous savez que c'était la place d'armes du baron des Adrets et que c'est comme ça que ce marais est devenu une place publique. Donc le premier qui a amélioré l'architecture de Lyon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le baron des Adrets. Il a agrandi les rues pour faire passer ses canons. Donc ça a permis une meilleure circulation dans la ville. Voici le pont de la Guillotière. Il a fallu 120 ans pour le construire. Voici le pont Morand, donc pont en bois fait par l'architecte Morand, vu sous un autre angle. Et voici, ce pont a résisté pratiquement jusqu'à la fin jusqu'en 1900, et il a été remplacé peu après. Voici le grand théâtre. Le grand théâtre n'est pas encore dans sa forme définitive. Voici la Saône à Pierre-Cise, la grotte des Étroits et le quai de Serein, et l'ancien palais royal et le palais de Fléchère qui a disparu malheureusement à peu près à cette époque, qui était une belle construction mais qui était relativement en mauvais état. Et vous avez ici ce qui est le palais de justice qui avait été construit pour François Ier, qu'il a trouvé pas tellement à son goût et qui a préféré repartir dans les châteaux de la Loire. Et l'autre partie qu'on ne voit pas qui est cachée, c'est la prison. Donc vous voyez, on peut dire que les 24 colonnes ont avantageusement remplacé cette construction. La place de la fromagerie près de Saint-Dizier, le lazaret de la quarantaine qui est un peu plus bas sur la Saône après Saint-Georges pour soigner les malades, puisque Lyon a une tradition de médecine. Et voilà le plan définitif en 1789, avec les travaux de l'architecte Perrache, dont il n'a pas pu profiter, puisqu'il a fallu une centaine d'années pour assainir. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour remonter le temps, pour comprendre ce qui s'est passé, comment on est arrivé au combat de 1793, comment une ville peut se rebeller contre sa capitale. Eh bien, c'est à la suite de nombreux problèmes qui vont se dérouler en 4 ans. Le 29 juin 1789 au soir, Lyon illumine pour fêter la réunion des trois ordres. Donc vous voyez que la tradition du 8 décembre est plus ancienne qu'on ne le croit, puisque Lyon savait s'illuminer. Mais on entend des cris dans la rue « Vive le tiers-état, point de fermier généraux, point de gabelle, point de droit d'entrée ». Et les grandes manifestations devant la maison du prévôt des marchands, qui est le Tolosan de Montfort, qui habite quai Saint-Clair, les manifestants saccagent et incendient les barrières de l'octroi. Donc vous voyez que déjà, le prévôt des marchands. Lyon est dirigé par un prévôt des marchands et quatre échevins. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une charge anobissante. On en reparlera pour l'histoire de savoir si Lyon était une ville qui voulait, qui souhaitait la royauté ou si c'était véritablement une ville républicaine. Donc ce mouvement anti-octroi, il a pris de l'ampleur. Des affrontements avec Mordom ont eu lieu, les barrières ont été détruites. Cette émeute contre l'arbitraire du pouvoir royal et contre la vie chère est rapidement réprimée par les dragons de monsieur. Monsieur, c'est un des plus grands régiments de France qui est stationné à Vienne, et par le régiment suisse Sonnenberg qui était à Grenoble et qui a été appelé à la rescousse par le consulat, aidé par les muscadins, c'est-à-dire la garde bourgeoise volontaire recrutée parmi les fils de bonne famille. Le régiment de Sonnenberg, c'est un régiment de Suisse, donc c'est un régiment professionnel. Voilà le drapeau du régiment de Sonnenberg. Vous voyez, les drapeaux anciens étaient colorés. Il y avait souvent du blanc qui était le blanc de la royauté, toujours la croix qui apparaissait et d'autres couleurs. Ça, c'est le drapeau colonel. On appelle le drapeau colonel le drapeau qui donne la position du colonel dans le régiment, pour qu'on le voie de loin. Et il y a un deuxième drapeau qui est celui du régiment lui-même quand il entre en campagne. Il y a toujours deux drapeaux. Ils sont de très grande dimension à l'époque, et bien entendu en soie, et fabriqués à Lyon. Le 7 juillet 1789, les juges du présidial condamnent trois prévenus lors des journées de juillet. Vous voyez que là, maintenant, ça rigole pas. L'un à la potence, l'autre aux galères, le troisième à l'exposition et au bannissement. On a beau être en 89, la justice tourne toujours. 9 juillet 1789, lors du Conseil général de la Commune, le consulat rejette la responsabilité des émeutes sur les étrangers. Vous voyez que rien n'a changé aujourd'hui. C'est toujours de la faute des étrangers. Les habitants ayant profité de l'abolition des barrières doivent déclarer les marchandises entrées librement et en payer les droits. Alors ça, c'est dur. Bon, effectivement, tous ceux qui se sont servis pendant que les octrois avaient disparu ont été obligés de rembourser. Et d'ailleurs, des visites domiciliaires sont annoncées, les attroupements de plus de 4 personnes sont interdits. Donc ça commence à rouspéter dans les chaumières. Et le 12 juillet est placardé à Lyon l'ordonnance royale du 8 juillet qui rétablit les octrois et qui arrive à Lyon sous forme de lettre patente. Donc ça veut dire que l'octroi, il est toujours là. Donc ça déclenche le 26 une manifestation qui est partie de Bellecour, qui se dirige vers l'hôtel de ville, et qui s'en empare. Alors là, les manifestations, à l'époque, c'est plus les monomes de 68, hein, on rentre dans l'hôtel de ville et on en devient propriétaire. Voilà l'hôtel de ville. Bon, celle-là est un peu plus récente. C'est l'hôtel de ville en 1830, puisque vous voyez qu'il y a un drapeau tricolore, mais j'en avais pas de plus ancienne, de bonne qualité à vous montrer. Juillet 89, c'est le début de la grande peur en Dauphiné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Humbert Colomès, qui est le premier échevin, qui a pris la succession de Tolosan, qui a démissionné, Humbert Colomès en profite pour porter secours au seigneur dauphinois et à la ville de Crémieux. Et il va lancer les muscadins dans les campagnes. Appuyé par les dragons de monsieur, ses volontaires auront vite raison des brûleurs de châteaux, sans pour autant ramener le calme. Et en rentrant par la guillotière, ils vont être accueillis par des coups de pierre et des tuiles. Et ils ne devront leur salut qu'à l'arrivée des Suisses. Donc vous voyez, déjà, ça remue. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les muscadins ne sont pas en odeur de sainteté. 26 juillet 1789, 2000 hommes marchent sur l'arsenal qui est défendu par la garde nationale, qui cette fois résiste et parfois contre-attaque. Tout entre dans l'ordre le soir avec l'arrivée place des terreaux du régiment Sonnenberg, qui a été retardé à hauteur de Pierre 6 par des jets de pierre et des coups de feu. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive depuis le nord par la Saône, vous voyez à gauche et sur la rive droite, il n'y a que des ruelles tortueuses, et sur la rive gauche, c'est pas très large non plus, donc l'embuscade était facile à tendre au régiment de Sonnenberg. Le 21 août, les octrois sont rétablis, et pour mémoire, ils seront supprimés par la Convention le 1er mai 1791. Alors, un événement n'a jamais qu'une seule cause, et Lyon n'échappe pas à la règle, et on peut en recenser trois principales. politique, c'est l'opposition des politiques, l'opposition politique entre la municipalité et le département, en liaison avec les événements parisiens. On va avoir une opposition constante entre les deux. Économique, puisque la fabrique a besoin de déboucher, l'insécurité ne favorise pas le commerce. Donc ça explique quand même en partie la position des Lyonnais qui, pendant la crise, on ne vend pas, on fabrique, mais on ne vend pas, on va créer du stock, et donc on n'est pas payé. Et puis, troisième élément, bien entendu, l'élément religieux, les Lyonnais sont assez religieux, et ils vont mal accepter le serment des prêtres. Alors, pour aborder ce siège de Lyon, moi je vous propose trois parties. Une première période qu'on va balayer rapidement pour éliminer le mythe de Lyon ville royaliste. Une deuxième période allant jusqu'en juillet 1793 avec la prise de l'hôtel de ville, le 29 mai 1793, et l'éviction d'Antoine-Marie Bertrand, qui était partisan de Joseph Chalier et qui avait succédé à Antoine Nivert-Scholl, élu à la place du médecin Jean-Emmanuel Gilibert. Vous voyez, ça fait beaucoup de maires. Il y a pratiquement une élection du maire tous les ans. Et une troisième période plus courte, mais ô combien riche en événements, qui ira de août à octobre, qui englobera la préparation, le siège lui-même et le départ de l'armée de Lyon dans la nuit du 8 au 9 octobre 1793. Alors, est-ce que Lyon est une ville royaliste? Eh bien, petit retour en arrière. En avril 1789, donc, je vous ai dit que le premier échevin, Humbert Colomès, après le dépôt du prévôt des marchands de Lozan de Montfort en avril 1789, il dirige la ville maintenant, et il s'appuie pour maintenir l'ordre sur les Muscadins, c'est-à-dire 800 volontaires de la garde bourgeoise. Malgré tous les bouleversements parisiens, il essaye de pérenniser l'ordre ancien, il ne veut pas de garde nationale, il va essayer de retarder le plus possible l'élection d'une municipalité. Mais le 15 janvier 1790, l'ancienne généralité de Lyon, formée des provinces du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez, va élire 36 administrateurs parmi les citoyens choisis en assemblée primaire dans la proportion de 1 sur 100 avec un directoire héritier des pouvoirs de l'intendant. Le procureur général syndic sera élu et il représentera l'intérêt public. Donc on va créer 6 districts avec des conseils de 12 membres élus et un directeur de 4 membres élus. Le district de Lyonville sera divisé en plusieurs communes dont la municipalité de Lyon formera l'ossature. Et on installera le chef-lieu provisoire à Lyon. Donc vous voyez que le millefeuille, ce n'est pas d'aujourd'hui. On est habitué à créer des millefeuilles en France. Le 27 janvier 1790, nonobstant les injonctions d'Humbert Colomès, les quartiers vont élire les officiers de la garde nationale en l'église des Jacobins. Ils vont les recruter parmi les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui payent un impôt qui payent l'équivalent de 3 journées de travail, ceux qui reçoivent l'équivalent de 3 journées de travail. Et donc, de plus en plus, on va s'apercevoir que les compagnies de volontaires fortes de 800 hommes, qui dépendent du premier échevin, sont impopulaires. Humbert Colomès, le 7 février, donne l'ordre à ses volontaires de prendre la relève des gardes chargés de surveiller l'arsenal. Le peuple de Lyon refuse cette décision et s'empare des armes de l'arsenal pour se protéger des muscadins. Et Humbert Colomès ne doit son salut qu'à la fuite par les toits de sa maison, de la rue Sainte-Catherine. La garde nationale est vraiment constituée et les compagnies de volontaires sont dissoutes. Donc exit Humbert Colomès et ça va lui donner les mains libres pour essayer de rétablir la royauté, donc d'essayer d'engager un complot pour restaurer l'autorité du roi. Alors voici l'attaque de l'arsenal. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne parce qu'il a été attaqué tellement souvent. Mais il n'y a pas beaucoup de gravures qui remontrent ce fait d'armes des Lyonnais. Donc Humbert Colomès, comme je vous le disais, donc, est parti, s'est enfui. Il n'a plus de responsabilité municipale. Et c'est lui qui va devenir l'âme de la conspiration royaliste de Lyon. Le projet repose sur l'idée que le roi est prisonnier à Paris. Donc le projet est magnifique. Et qu'en venant à Lyon, il pourra retrouver sa puissance. D'ailleurs, Louis XVI n'avait pas dit non à ce projet. Mais, et donc, on est en plus dans le prolongement des camps des Jalès. Vous savez qu'en Ardèche, l'insurrection est fréquente et tous les ans, à la belle saison, les insurgés prenaient le maquis dans les montagnes et il fallait envoyer l'armée pour ramener l'ordre. Donc, Albert Colomès va prendre contact avec le comte d'Artois qui est établi à Turin. Et il faut savoir qu'Albert Colomès était grand ami du baron de Chamousset, qui entretenait des relations très serrées avec le Salon français, qui est une société royaliste de Paris, et avec l'Académie royale de Juilly. L'Académie royale de Juilly, vous le savez, c'est les francs-maçons. Alors, un petit mot sur la garde nationale pour vous montrer ce que c'est, puisqu'aujourd'hui, François Hollande a recréé une garde nationale, mais elle est embryonnaire et elle ne correspond à rien. La garde nationale était une milice citoyenne française qu'on a levée pour la première fois à Paris à la mi-juillet et qui rassemblait les milices bourgeoises qui s'étaient créées spontanément à l'annonce du renvoi de Necker et d'une concentration de troupes royales autour de la capitale. Donc à partir du 20 juillet 1789, ces formations armées se sont créées également en province pour faire face au complot aristocratique. Là, la République commence à s'imposer. Et aux brigands, dans le cadre de la Grande Peur. Elles furent ensuite confirmées comme garde nationale et, pour mémoire, elles n'ont été dissoutes qu'en 1871, après le conflit avec la Prusse. Voilà l'uniforme de la garde nationale. À gauche, vous avez le fusillé, à droite, le chasseur. La différence entre les deux, c'est que le fusillé est en général un peu plus statique et que le chasseur, lui, n'hésite pas à flanguarder et à partir en reconnaissance avec une tenue beaucoup plus légère que celle du fusillé. Vous avez ici un brevet de garde nationale. Il est signé du 29 janvier 1793 par Julian, qui était le général de cette garde nationale. Le nom, je n'ai pas réussi à le déchiffrer, bien que l'original soit au musée. Est-ce que ce serait Joseph Parel? Mais je ne l'ai retrouvé dans aucun registre. Voici une épée de la garde nationale. Donc, vous voyez, un magnifique sabre avec une gravure garde nationale et de l'autre côté, la loi. Voici les drapeaux de la garde nationale. La garde nationale s'appuie sur les 35 pennonnages. Donc il va y avoir 35 bataillons, il y a eu même 35 bataillons dans la ville de Lyon. On saute une année, 25 mars 1790, c'est l'élection de Fleury Zaccanerie Palerne de Savie. Il est né à Lyon en 1733 et mort à Bourg-Gental en 1835, et il va être donc le premier maire du Lyon. Mais élu au tribunal de district de 4 décembre suivant, il va en profiter pour quitter ses fonctions de maire. Est-ce qu'il était déçu de la fonction? Je ne sais pas. Voici Fleury Zaccarie Simon Palerme de sa vie. Donc c'était un médecin. Donc on élit cette municipalité. Le consulat, cette institution prestigieuse qui datait du Moyen-Âge avec un prévôt des marchands, 4 échevins et 12 conseillers recrutés dans un cercle de familles restreint, a été dans une ville dépourvue de parlement, un tremplin pour l'anoblissement. Donc chaque échevin avait été auparavant conseiller et devenait prévôt des marchands. Et à l'issue de sa fonction, il était anobli comme les deux recteurs de la Charité et de l'Hôtel Dieu. Donc ceci pour vous dire que Lyon n'est pas une ville véritablement royaliste parce qu'elle n'a pas de noblesse d'épée. C'est plutôt de la noblesse de robe et surtout des médecins. Vous savez que vous souvenez que les médecins se targuaient d'être nobles et cette fonction n'était pas transmissible. Et quand le roi Louis XIV a envoyé ses sbires dans les provinces pour récupérer l'impôt sur les faux nobles, les médecins de Lyon se sont battus bec et ongles pour éviter de payer la dîme royale. Donc, Palerme de Savie, premier maire élu par les citoyens, 30 000 personnes qui votaient, qui représentaient 90% des hommes adultes, 20 officiers municipaux, 42 notables, un procureur syndic et son substitut et le greffier. Toujours le millefeuille. Alors, un petit clin d'œil sur une manifestation qui s'est déroulée le 30 mai 1790, quelques mois après la prise de la Bastille par les révolutionnaires. Plusieurs communes de France avaient décidé de se rassembler pour renforcer leur poids politique, donnant ainsi naissance à des fédérations de communes. Jusqu'en 1791, l'esprit des Français était encore très jovial et plusieurs fédérations ont décidé d'organiser elles aussi des fêtes pour célébrer l'indépendance du pays. Eh bien, l'une des plus belles et des plus retentissantes fut certainement celle de la Fédération lyonnaise qui eut lieu le 30 mai 1790 au camp de Villeurbanne. Ce jour-là, 28 bataillons sur 35 de la Garde nationale de Lyon et de nombreuses délégations de départements voisins ont défilé dans les rues de Lyon. Et le succès de cette célébration radanienne fut tel qu'il remonta aux oreilles du commandant de la Garde nationale de Paris, le général de Lafayette, qui était admiratif, et le leader militaire a donc choisi de reprendre ce concept venu du Rhône et décidé d'organiser une fête nationale le 14 juillet 1790. Donc voici une gravure de la fête du Grand Camp à Villeurbanne. Vous voyez, avec un arc de triomphe, une grande tribune ronde au milieu et surtout des strapontins sur les bords. Et vous voyez défiler au milieu les différentes délégations et les troupes qui arrivent pour passer sous l'arc de triomphe. Pour ceux qui fréquentent la préfecture, vous avez cette photo qui est dans cette peinture qui est dans le grand escalier, pour qu'elle est, vous en excuserez la médiocrité, mais elle est très grande et elle est très dure à photographier en entier, parce qu'il y a des colonnes devant, donc j'ai réussi à obtenir ça. Voilà donc ce que donnait la fête du Grand Camp. Et vous pouvez voir l'original donc à la préfecture tout simplement. Et en 1829, quand Lafayette va venir à Lyon, rendre visite aux Lyonnais, il va leur donner un drapeau tricolore, donc le général de Lafayette à la Garde nationale de Lyon. Ce drapeau est au musée de Gadagne, bien entendu, jamais exposé parce que la soie est fragile, malheureusement. 8 juillet, donc, puisqu'on parlait de royalisme, le 8 juillet 1790, on inaugure l'arbre de la liberté planté sur la place des Terreaux qui prend le nom de place de la liberté. Alors là, il y a un petit litige entre la place Bellecour et la place des Terreaux. Je ne sais pas laquelle des deux. Je ne suis pas certain que je ne sais plus laquelle a été la première à la place de la Liberté. Mais là, a priori, l'arbre de la Liberté a été planté sur la place des Terreaux. À 16h, il y a eu une séance du Conseil général de la commune. 20 000 personnes se sont entassées dans la salle du Conseil et sur la place. La municipalité s'est déclarée incompétente pour supprimer les octrois, bien entendu, et les cris habituels s'élèvent, point d'octroi, point de barrière, à bas les gapions, nous ne voulons plus payer, et les sections se réunissent pour choisir leur commissaire. Donc vous voyez, on plante un arbre de la liberté, donc on peut dire que la municipalité est plutôt portée vers la République plutôt que vers la royauté. Le 10 juillet, les postes d'octroi sont occupés par la Garde nationale qui fraternise avec la population. L'appâtage de l'octroi sur la Saône est détaché et les denrées entrent librement. L'appâtage, c'est la chaîne qui bloquait la Saône pour pouvoir percevoir les droits sur les bateaux qui descendaient. Donc le 10 juillet, les commissaires de section nommés l'avant-veille pour rédiger un rapport à envoyer à l'Assemblée nationale décident de supprimer les octrois sous la pression du peuple. Salus populi, supremalex, disent-ils. Le Conseil général de la commune accepte la décision des sections. Les finances ne font que se dégrader davantage, les impôts ne rentrent plus. Donc il est évident que l'économie de la ville va en prendre un coup. Mais l'Assemblée générale, le 15 juillet, le 13 juillet d'ailleurs, l'Assemblée générale rétablit les octrois et cette décision sera placardée le 17 juillet 1790, donc encore un coup pour rien. 14 juillet 1790, la prise de la Bastille est célébrée par la municipalité Place Bellecour, devenue Place de la Fédération, donc vous voyez, et Chalier, voilà un nom nouveau qui apparaît, le nommé Chalier apporte une pierre de la Bastille et, toujours grand guignolesque, il la fait baiser comme une relique à tous ses partisans. Alors voici la fête des fédérations à Paris, alors évidemment c'est un peu plus grand, et il y a plus de monde puisque toutes les provinces sont montées pour défiler à Paris. Néanmoins, le 19 juillet, la fièvre monte dans la ville à Lyon comme témoin de l'assassinat horrible du soldat suisse Antoine Lager du régiment de Sonnenberg. La garde nationale n'est intervenue que lorsque tout était fini. Donc malheureusement, Le soldat était tout seul dans la rue. En traversant la place Bellecour, il a été agressé par les citoyens et il a été démembré, découpé en morceaux. Et ça a été une chose horrible. Rappelé alors par la municipalité, le commandant de la garde nationale, puisqu'il est intervenu trop tard, a préféré démissionner. Le 26 juillet, un attroupement se forme place Bellecour, comme la veille, mais en nombre plus important. On marche sur l'hôtel de ville, on réclame des lieux de Villard, des armes et l'abolition des octrois. La foule envahit encore une fois l'hôtel de ville, bouscule les autorités et saisit les armes. La garde nationale se ressaisit, stimulée par un général de passage, le général Foissac. Les Suisses appelés en renfort empruntent les quais de Saône, mais sont accueillis, comme d'habitude, à la hauteur de Pierre-Cise, par une vive fusillade. Et donc ils vont arriver un petit peu en retard. Le 9 août, la municipalité 1790, la municipalité est avisée par le ministre de la guerre de l'arrivée de troupes, deux escadrons de chasseurs d'Alsace et de Bretagne, les bataillons de la marque, de monsieur et de la marine. Le commandement est confié à monsieur de la Chapelle. Donc monsieur de la Chapelle devient le gouverneur militaire de Lyon et il est là dans le but de restaurer la royauté. Les responsables de l'insurrection du 26 juillet sont quand même condamnés à être pendus avec des écriteaux de chefs d'émeute et sénitieux. Vous voyez que c'est quand même rapide. Quelques jours après, la justice a fait son œuvre. Mais pendant ce temps, puisqu'il y a quand même une conspiration pour établir le roi ou pour le faire venir à Lyon, un traître qui s'appelle Denis Monet distribue les tracts aux canuts et dans les cabarets pour amener le peuple de Lyon à se détacher de la Révolution. Et on va voir un peu plus loin qu'il va trahir cette cause et que c'est lui qui va les dénoncer. Les officiers du municipaux amis, la conspiration va gagner les officiers municipaux et notamment avec la nomination de Guilain de Pougelon à la mairie de Lyon. Guilain de Pougelon, c'est le frère de Guilain du Montet dont on va parler un peu plus loin. Donc les assassins du soldat suisse ont également été jugés. Il y en a un qui a été pendu, l'autre qui a été rompu, exposé sur une roue. C'est vraiment une des dernières exécutions de l'Ancien Régime pour un drame qui malheureusement n'a pas d'âge. Et le 2 octobre 1790, le décret de constitution civile du clergé est publié et affiché à Lyon. Et le premier à se ruer, c'est David Bretin, le curé de Saint-Just, qui est le premier à déclarer qu'il prêtera serment. Il y a toujours des gens qui sont plus rapides que les autres. Bon, là, je passe très vite parce que c'est l'explication de la fin de cette conspiration. Le 20 octobre, le roi renonce à revenir à Lyon. Il a compris quand même que c'était dangereux, mais de toute façon, il est prisonnier à Paris. Et malheureusement, Terrasse de Tessonnet, qui est l'aide de camp du prince de Condé, qui est à Lyon, décide que c'est le moment de faire quelque chose, mais c'est trop tard parce que Denis Monet a vendu la mèche. Les officiers municipaux acquis à la conspiration vont démissionner et ça va contrecarrer donc l'opération. Palerme de Savy en profite pour démissionner de ses fonctions de maire de Lyon le 4 décembre puisqu'il est élu au tribunal de district. Donc on va arrêter les conspirateurs. Donc trois conspirateurs sont arrêtés. Le chevalier Terrasse de Tessonnet, donc l'aide de camp du comte d'Artois. On va arrêter Guilain de Pougelon, le marquis d'Escar et le comte d'Aigrigny. Donc ils sont quatre, supposés avoir tenté de déclencher un mouvement populaire. Et c'est ce qu'on peut appeler la fin de la conspiration de Lyon. Et maintenant, l'ensemble de la municipalité et du département vont devenir beaucoup plus... républicain. Alors, nous abordons maintenant la deuxième partie, avec des troupes qui vont être de plus violents. On va passer assez vite pour arriver au siège. Le 16 décembre, Louis Vitet est élu maire de Lyon. Voici Louis Vitet, encore un médecin. Lyon a une tradition de médecins. Le 5 janvier, c'est la fin de la mission d'Alexandre-Marie de la Chapelle. Donc Marie de la Chapelle, c'était le général donc, qui était gouverneur de Lyon et qui était chargé de protéger Guilain de Pougelon. Alors, je vous avais dit que les Lyonnais étaient très religieux. Le jour de Pâques 1791, à la porte de l'église des Cléristes, des nombreux fidèles participaient à la messe de 6 heures dans la chapelle du monastère de Sainte-Claire, rue Salin. Une bande de forcenés pénètre dans les lieux, agitant des fouets de cordes. La scène dure près de 4 heures. Le maire Vitain en profite pour faire fermer les chapelles fréquentées par les catholiques. Donc, vous voyez, la religion et le roi ne sont plus en dehors de sainteté. Et là, scène horrible, l'arrestation du roi à Varennes, 20 et 20 juin 1791, c'est la fuite du roi à Varennes. 26 juin, très peu de temps après, le drame de Polémieux avec le massacre de Guilain du Montet, qui est attaqué dans sa maison et qui est découpé en morceaux également, comme le soldat suisse. 16 décembre 1791, Louis Vitet est réélu, et le 26 janvier 1792, le département a qualifié d'abus de pouvoir l'attitude de notre ami Chalier et de Champagneux face à l'affaire Ménis. C'est une plainte qui a été déposée pour des fabricants de faux assignats. Le corps municipal, évidemment, qui est du côté de Chalier, se déclare solidaire, et rien ne va plus entre la municipalité et le département. Voici Chalier dans un portrait de Chalier. Chalier, c'est un canu, c'est un maître. Il a un petit atelier, mais c'est un Italien d'origine, encore un étranger. C'est un Italien d'origine, mais il est plus méchant en parole qu'en fait. Mais il faut reconnaître que ses paroles étaient excessives. Le voici à l'œuvre au Jacobin, en train d'haranguer les foules. Vous voyez, il a vraiment une attitude relativement hostile. Mais il est président du tribunal criminel, et avec Locelle, le procureur de la commune, ils ont la haute main sur le comité central et les sociétés populaires de la ville. À cette époque, M. Roland démissionne de sa place d'officier municipal parce qu'il va être nommé à Paris, et on voit apparaître Dubois-Crancé, qui va prononcer un discours au club central de Lyon, dans lequel il va s'élever contre le fait que des comédiens puissent jouer Richard Cœur de Lion. Alors Richard Cœur de Lion, c'était une pièce où le public se lamentait sur les malheurs de Richard, qui en fait était un copier-coller avec le roi Louis XVI. Donc apparition de Dubois-Crancé, voici le beau monsieur Dubois-Crancé. À gauche, vous voyez l'officier supérieur des armées du roi, avec sa croix de Saint-Louis, et à droite, vous voyez le conventionnel. Un chef-d'œuvre de retournement de veste. Le 26 mars 1792, la suspension contre Chalier est levée à la demande du département. Et le conseil général de la commune va féliciter évidemment Roland pour sa nomination en tant que ministre de l'Intérieur le 15 mars. Encore une affaire religieuse. Le dimanche de Pâques, devant la maison des religieuses Clarisses de la Sala, un attroupement se forme. Et à la sortie de la messe, les femmes sont assaillies et fouettées et les hommes reçoivent des pierres. Donc vous voyez que effectivement la religion n'était plus bien considérée dans la ville. Alors le 10 août 1792, c'est le massacre des Tuileries avec la mort de 9 officiers et de 150 gardes. Donc c'est pratiquement le lendemain la nouvelle de la suspension du roi. Sachez que le futur général lyonnais faisait partie de la garde constitutionnelle du roi Louis XVI. Donc le département est destitué, la municipalité est approuvée, Chalier est rétabli avec honneur dans ses fonctions, et très peu de temps après, le château de Pierre-Cise va s'illustrer, puisqu'on va y enfermer les officiers du Royal Pologne, et qui ont été enfermés sur ordre du maire de Lyon. Voilà la scène du massacre. On va promener les têtes des malheureux officiers jusque dans le Théâtre des Célestins. Voilà à quoi ressemblait le Théâtre des Célestins à l'époque. Encore une élection de maire. Le 5 novembre, c'est Nivier Scholl qui est élu au second tour de scrutin. Il succède à Louis Vitet. Mais en conflit avec Chalier, il va démissionner le 7 février. Il sera réélu le 18 février, mais il va refuser le poste, qui sera finalement Antoine-Marie Bertrand qui sera élu. 24 janvier, des réjouissances se déroulent dans les clubs à l'occasion de la mort du roi. La guillotine est installée en permanence place Bellecour. C'est pas pour faire plaisir à tout le monde, bien entendu. Bon, ensuite, on fait des réunions en grande pompe pour montrer son attachement à la cause républicaine. Mais là, dans la nuit du 4 au 5 février 1793, le conseiller général de la commune confirme dans la nuit l'arrêté du corps municipal autorisant les visites domiciliaires afin de purger la ville des scélérats. Donc là, on voit l'œuvre de Chalier, la ville commence à rouspéter. Les visites ont lieu de 5h du matin à 17h. Les portes de la ville sont fermées en présence d'officiers de police et d'officiers municipaux. 300 personnes ont été arrêtées, dont Palerme de Savy et Tolozan. Donc, vous voyez à peu près le mécontentement de la ville. 6 février 1973, l'ami Chalier propose que la guillotine soit installée sur le pont Morand pour que les têtes tombent directement dans le Rhône, et en particulier celle de Niverchol. Là, le ton est donné. Donc, le conflit entre le maire, soutenu par le département et le conseil général de la commune, à propos des visites domiciliaires et des troupes en ligne qui ont été, des troupes de ligne qui ont été appelées, commence à se renforcer. Niverchol est réélu, les assemblées de section se déclarent permanentes, donc ça devient grave. Les amis de Chalier, dont le juge Gaillard, sont pris à partie par la foule. Chalier reste introuvable, là, il se cache, il commence à avoir peur. On est le 18 février 1793. Et on va arriver très rapidement à l'élection donc de Bertrand, et pour arriver finalement à l'envoyer. Alors Paris, évidemment, se rend compte qu'il se passe des choses à Lyon, et il envoie 3 commissaires, Rovière, des Bouches-du-Rhône, Legendre de Paris et Bazire de la Côte d'Or. Alors là, les plaintes commencent et les requêtes affluent. Chalier se plaint évidemment de ne plus pouvoir dormir chez lui depuis le 19 février, tant ses ennemis sont nombreux, et parmi eux, les volontaires de Marseille. Sur la demande des commissaires, Gilibert démissionne et reste en prison. Donc Bertrand peut être élu et finalement va prendre la tête de la mairie avec son ami Chalier. Locelle, qui est quand même mal vu, et son secrétaire sont arrêtés pour prévarication et concussion dans leur fonction. Donc la justice continue à jouer son rôle. 9 avril 1793, je vous le signale, parce que ça va être un peu l'étincelle qui fera déborder la coupe. Un banquet de Clubis est organisé sous les tilleuls de la place Bellecour. Chaque participant apporte un plat et pas plus que 2 bouteilles de vin. Vous voyez la plaisanterie, on en s'était quand même rendu compte qu'avec le Beaujolais, les réunions ne se terminaient pas forcément au mieux. Et donc on limite à 2 bouteilles de vin le repas républicain. Mais cette orgie, disent certains, serait prélude à la création d'un tribunal révolutionnaire où l'arbre de la liberté serait la guillotine. Alors la Convention interdit quand même la création d'un tribunal révolutionnaire, mais ça n'empêche pas qu'on envoie 2 représentants en mission, Nioche et Gauthier, qui vont arriver au moment où l'agitation gagne la ville, les magasins ferment. Chalier veut faire un faisceau des présidents et secrétaires de section pour leur trancher la tête et se laver les mains dans le sang. Alors ça, c'est le mot de trop. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1793, Gauthier a la goutte et donc il peut rien faire. Nioche parcourt les rues et il va s'apercevoir que finalement, il va se passer quelque chose. C'est la prise de l'hôtel de ville le 29 mai 1793. Cette fois, les choses sont faites. L'insurrection de Lyon avec... alors là, il y a eu 2 colonnes qui sont parties de l'arsenal. Une colonne qui est partie par le Rhône et qui a été rapidement bloquée par les défenseurs de l'hôtel de ville. Et une deuxième colonne qui est arrivée par la Saône, conduite par Madinier, qui est le commandant général de la garde nationale, et qui va monter à cheval sur les marches de l'hôtel de ville. Et donc Charles Massas, dans un poème sur le siège de Lyon, dira « Un héros d'un coursier pressant le pas fougueux, armé d'un fer vengeur, s'élança vers eux. » Donc Gustave Buisson était aux côtés de Madinier, donc jeune architecte de 25 ans. Ils ont pris l'hôtel de ville. Les Girondins donc triomphent à Lyon, malheureusement. Le 31 mai 1793, les Jacobins triomphent à Paris. Alors, à l'extérieur de Lyon, Dubois Crancé à Grenoble avec Albit et Gauthier pour intimider la population de Grenoble préparer la répression des Lyonnais. Donc on se rend bien compte qu'il va falloir quelque chose. Vont rassembler la garnison et la passer en rue avec donc l'intention de marcher sur Lyon. À Lyon, le comité militaire de la ville va obtenir de la municipalité l'autorisation et les moyens de mettre Lyon en état de défense. Donc là, on coupe les ponts avec la Convention. Et à partir de juin 1793, la ville entre en effervescence. Les 207 députés, oui, ils sont quand même nombreux, hein, 207 députés de canton et section Rhône-et-Loire se réunissent à l'hôtel commun sous la présidence de Gilibert. Ils prennent le titre de Commission populaire républicaine, notez bien républicaine, et de salut public de Rhône-et-Loire pour bien dire qu'il reste républicain. Donc après, la situation va se détériorer rapidement. Et Dubois Crancé va obtenir l'appui et la convention va donner ordre au général Kellermann. Le général Kellermann, c'est le vainqueur de Valmy, de détourner une partie de l'armée des Alpes pour réprimer la révolution lyonnaise. En attendant, dernier essai de Dubois Crancé et du général Kellermann, on envoie le général Charles Cerisier, qui est un Lyonnais d'origine, pour plaider la cause de Lyon, pour leur dire de rentrer dans l'ordre. Mais pendant ce temps, les Lyonnais envoient les généraux Servan et deux adjutants généraux, Servan et Nerveau. Alors l'adjutant général, dans l'Ancien Régime, c'est un colonel. C'est un colonel entre colonel et général. Il n'est pas vraiment général, mais le nom est... Mais finalement, il se fait appeler général. Donc c'est un terme qui sera rapidement supprimé sous l'Empire. Donc ces deux adjudants généraux vont partir dans le Forez pour chercher d'abord à Saint-Étienne des armes et des munitions et pour ramener un peu de vivres dans Lyon. Donc voici la collecte des armes à Montbrison et à Saint-Étienne par les troupes lyonnaises. Donc ils partent en juillet et ils vont rentrer en septembre. Ils vont faire une razzia pendant quelques mois. Ils vont rentrer en septembre. Alors à Lyon, il faut se trouver un chef. On a essayé de demander à Cerisia s'il voulait être chef de l'armée lyonnaise. Il a dit non, évidemment. Il préférait avoir sa carrière avec l'armée de la Convention. Donc finalement, on se souvient de Perrin de Précy, qui est un colonel qui commandait un régiment qui est passé à Lyon en 1787. Et donc la municipalité va essayer de retrouver sa résidence à Marcigny, dans Saône-et-Loire, et lui proposer le poste. Voilà le château d'Anzil-Duc où vivait Perrin de Précy. Et donc François Perrin de Précy était né à Anzil-le-Duc le 14 janvier 1742. Il a été enseigne au régiment de Picardie. Il a ensuite été lieutenant, capitaine-major. Il est en 1785 lieutenant-colonel à 44 ans. Il est tout à fait dans l'âge d'être généralisable. Et en 1786, c'est à cette époque qu'il arrive à Lyon, au bataillon des chasseurs des Vosges. Il est colonel du régiment d'Aquitaine, dont le descendant actuel existe toujours. C'est le 35e régiment d'infanterie qui est à Belfort. Et il accepte d'être lieutenant-colonel de la garde constitutionnelle de Louis XVI, donc un grade en dessous. Et il a refusé même d'être maréchal de camp, c'est-à-dire général de brigade. Voilà les drapeaux du 1er régiment d'infanterie et les drapeaux du régiment d'Aquitaine où il avait été nommé colonel. Donc tel Lucius Quictus Cincinnatus, qui était en -518-430 consul à Rome et qui a été dictateur en 460, les Lyonnais sont venus en délégation trouver à Marcigny, derrière sa charrue, Perrin de Précy, et vont lui proposer de prendre la tête de la petite armée lyonnaise. Donc voilà le portrait de Perrin de Précy en colonel. Alors après, il s'est fait, après la Révolution, il s'est mis en tenue de général d'Empire. Il trouvait que ça faisait mieux, que ça allait mieux avec les temps. Donc voilà son panégyrique. Il était maréchal de camp en 1795, nommé donc par le comte d'Artois, par le comte de Provence qui est devenu Louis XVIII, et il a été lieutenant général le 13 août 1814 à 72 ans, et commandant en chef de la garde nationale de Lyon en 1814 avant de prendre sa retraite, et il est mort à 70 ans à Marcigny. Alors il constitue son état-major. Alors voyez qu'il y a beaucoup de nobles dans cet état-major. Pourquoi il y a des nobles? Parce qu'évidemment, les nobles sont... on recrute plus de militaires chez les nobles que dans le peuple, et donc finalement ils vont tous prendre un nom, donc sauf le général Granval dont le nom est simple. Mais vous voyez, la Roche-Negly se fait appeler Rimbert, le général des Échirolles garde son nom, le chevalier de Melon qui a participé aux révoltes des jeunesses prend le nom de général Arnaud. C'est le Saint-Just de la Révolution lyonnaise, hein, c'est le Saint-Just de la Révolution lyonnaise, il a 25 ans, il est très jeune. Le comte de Clermont-Tonnerre se fait appeler Gaspard, le général Nerveau, en fait, c'est pas un général, c'est un capitaine de vaisseau, c'est un marin, donc son nom n'a pas besoin d'être changé. Burta de la Rivière ne prend que la première partie de son nom, l'adjudant général de la Pujade, le colonel de Fontaine sont les rares à garder leur nom, et le colonel Gingène, lieutenant-colonel Gingène, ça c'est un soyeux, et il a participé à la prise de l'hôtel de ville, c'est lui qui était un des deux commandants de la colonne qui est arrivée par la rive droite du Rhône. Le Perrin de Précy va s'appuyer sur le colonel de Chetnette, c'est un des meilleurs officiers de la vieille armée française, c'est le duguesclin du canon, c'est le meilleur artilleur qu'on puisse trouver, et c'est lui qui va remonter toutes les redoutes qui sont autour de Lyon, et toutes ces redoutes serviront en 1830 de support pour les futures fortifications de la ville, c'est dire qu'il avait bien choisi son domaine. Un autre personnage discret, le comte de Virieux, François-Henri comte de Virieux, qui est un ancien colonel du régiment de Limousin, voilà le drapeau du régiment de Limousin, mais il est très engagé dans le convent de Wilhelmsbad en 1782, et lui, il va s'opposer à Précy, parce que lui, il est royaliste, alors que Précy décide d'obéir aux ordres de la municipalité, et donc de porter la cocarde tricolore. C'est un excellent chef, on le reverra plus loin. Donc le 14 juillet 1793, on fête le 14 juillet à Lyon, on invite évidemment Kellermann, mais très prudemment le général en chef qui commande l'armée des Alpes se récuse, et c'est ce jour-là que notre ami Précy va... prêter serment devant la municipalité. Alors on ne traîne pas, on a fait prisonnier Chalier dans la prise de l'hôtel de ville. Le 15 juillet, il est jugé. Le jugement est terrible. Hein. Il a 60 témoins à charge, un seul défenseur d'office, 12 chefs d'accusation. Et les jurés vont délibérer pendant 8 heures. L'accusé est bien entendu condamné à 4 heures, mais c'est à 4 heures du matin qu'il est condamné. Et on va l'exécuter extrêmement rapidement, puisque c'est le 16 juillet 1793 qu'il est exécuté. Donc là, cette fois, les ponts sont coupés. On ordonne à Kellermann de diriger les troupes de l'armée des Alpes sur Lyon. Alors il va s'installer sur les coteaux de Caluire, mais le Piémont entrant en guerre contre la France à cette époque-là, il va plutôt s'occuper de repousser les Piémontais vers le Mont-Blanc que de s'occuper du siège de Lyon, et parce qu'il répugne évidemment, vainqueur de Valmy, attaquer des Français, ça lui répugne. Le général Sérésia est libéré par les Lyonnais le 18 juillet 1793, et donc il est libre de repartir. Dubois Crancet à Grenoble va réclamer de l'artillerie de siège et 10 bataillons, et on commence à diriger une colonne vers les faubourgs de la Guillotière. Couthon va arriver d'Auvergne avec 25 000 hommes sous la conduite de Javotte. Donc vous voyez, la difficulté, ça va être de réaliser l'encerclement de Lyon. Donc on en arrive à notre troisième et dernière partie, qui est le siège. Pour faire un siège, pour ceux qui connaissent la méthode de raisonnement tactique, dans le cadre d'ordre, on commence toujours par étudier le terrain. Donc le terrain, c'est une zone urbaine avec des faubourgs, des collines, des cours d'eau, des fortifications en état de délabrement. Là, vous voyez les fortifications anciennes. Vous voyez ici une vue romantique de l'entrée de Lyon du côté de la Croix-Rousse. Vous voyez ici les fortifications qui enserrent la ville, qui avaient été construites autour de Fourvière, mais qui sont déjà en fort mauvais état. Ça s'écroule même assez souvent, donc il faut les renforcer. Et puis ça résiste au pot canon. L'ancienne porte d'Ainay, et là on voit encore au sommet les fortifications de Fourvière. Si vous passez le long de la Saône, ce mur existe encore, hein, on le voit très nettement, il est même éclairé le soir. Le pont Morand sous la neige, vous voyez, il y avait deux petites fortifications, et là, les fortifications lyonnaises, vous le verrez plus loin, vont déborder effectivement sur le côté des Brotteaux. Voici le Pierre-Cise et le fort Saint-Jean, donc, qui masque l'entrée de Lyon côté Saône. De ce côté-là, c'est très bien défendu. Et donc, les travaux du siège vont être dirigés par le colonel Chendet, qui va faire dresser ses redoutes et des fortifications qui sont considérées comme des chefs-d'œuvre. Alors, un petit satisfacit pour les Lyonnais. Le colonel de Chenet a fait venir un ingénieur qui s'appelle Smith ou Schmidt. Il est suisse d'origine, hein, mais il est né à Paris quand même. Et c'est un garçon de 29 ans. Il va faire fondre en peu de temps presque toute l'artillerie dont vont se servir les Lyonnais en créant un arsenal et un monastère à Sainte-Claire. Alors Sainte-Claire, vous le voyez ici, c'est entouré en rouge, c'est juste à côté d'Ainay, et donc c'est là que notre ami Schmidt va fondre ses canons. Pourquoi ils font ses canons? Ben, tout simplement parce que les frères Jean, qui n'ont pas voulu prêter leur concours à la cause lyonnaise, ils ont préféré enterrer une centaine de canons, démanteler leurs installations pour empêcher les ouvriers de travailler et quitter la région. Donc, petit satisfait, Dubois Crancé a été tellement stupéfait du résultat obtenu par les canons en si peu de temps qu'il se les a fait montrer après la reddition de Lyon. Mais vraiment, il a été étonné de la précision des tirs lyonnais. Alors, quelles sont les forces en présence? Eh bien, d'abord, l'ennemi immédiat, c'est quelques éléments qui sont casernés dans la ville. Vous vous souvenez qu'on avait envoyé des troupes, mais il n'y a pas de véritable caserne dans la ville. Donc, les troupes, on les met dans des maisons, compagnie par compagnie. Donc, ce n'est pas un ennemi très dangereux. Et d'ailleurs, les Lyonnais vont les laisser sortir quand Kellermann en aura besoin pour les emmener dans la bataille du Mont-Blanc. Donc, au départ, donc, pas beaucoup d'ennemis, mais très rapidement, Dubois-Cancé va s'installer sur le Rieux. Et puis, à la fin de l'encerclement, on aura en face de nous, en face de la ville de Lyon, 49 000 hommes de troupes, mais des troupes plus ou moins aguerries, 25 000 hommes de réquisition qui sont mal armés et qui ont été amenés par Couthon. Donc voilà maintenant une vue d'ensemble de la ville, avec les positions donc, des troupes républicaines qui vont arriver pour encercler la ville, mais elles arriveront très tard, elles vont mettre presque 2 mois pour y arriver. Les forces amies et ennemies, donc les forces de amis, donc on a vu l'ennemi, maintenant on voit les amis. Le général en chef n'a que 8 000 hommes d'infanterie, un petit corps de cavalerie, une compagnie de canonniers et des gardes nationaux qui occupent les postes à l'intérieur et qui vont faire le service de la place. En réalité, s'il y a 3 000 hommes qui peuvent combattre en même temps, c'est à peu près tout le maximum sur lequel pourra compter Perrin de Précy. Donc le siège va durer 62 jours, du 8 août au 9 octobre 1793. Le 8 août, c'est les premiers tirs. Et c'est pour ça que, contrairement à Édouard Herriot qui prend le 4 août, j'ai pris le 8 août, mais bon, ça peut se discuter. L'idée de manœuvre des Lyonnais, c'est la défense du précaré, sans esprit d'offensive, car c'est la décision de la municipalité. On a reproché par la suite à Perrin Précy de ne pas avoir profité de sa situation de force au début pour attaquer les troupes de la Convention, mais il faut quand même savoir que la municipalité y était hostile. Du côté des conventionnels, l'idée de manœuvre, c'est en 3 temps. Des petites escarmouches pour économiser les hommes. On répugne quand même à se battre contre les Français. Réaliser d'abord l'encerclement pour affamer la ville et l'obliger à se rendre, ça paraît logique. Et attaquer en force, mais ça, on le fera qu'après le remplacement du général en chef, Kellermann. L'idée de manœuvre de Kellermann, lui, c'était une attaque simultanée par la Croix-Rousse et la rive gauche du Rhône. Dubois-Cancé, lui, voulait attaquer en force par la Croix-Rousse. Mais quand on regarde les plans, évidemment, Dubois-Cancé, pour un ancien officier supérieur de l'armée royale, aurait dû s'apercevoir qu'il attaquait par le côté le plus difficile, le côté qui était le mieux fortifié, parce que les Lyonnais ont fait trois lignes de défense devant la Croix-Rousse, qui vont être difficiles à prendre. Donc la ville bricole, on va s'installer au Grand Collège, le secrétariat général des sections qui va diriger un peu la ville va s'installer au Grand Collège, c'est-à-dire au lycée Ampère. La municipalité provisoire va s'adresser encore le 2 août, essaye de s'adresser à la Convention pour lui demander le retrait des décrets contre Lyon. Mais ça ne sert à rien, on est en guerre. Et les premières troupes conventionnelles vont arriver à Lyon. Donc vous voyez ici qu'effectivement, les escarmouches commencent. Et vous voyez ici sur cette carte l'ensemble des défenses. Donc vous avez ici c'est à Rieux que s'installe Dubois de Crancé. Et vous voyez ici les trois lignes de défense qui ont été confectionnées avec de nombreuses redoutes et de nombreux canons. C'est effectivement l'emplacement le plus difficile à prendre. Vous voyez ici tout l'ensemble des lignes en marron. C'est l'ensemble des lignes, des points forts qui ont été établis par les équipes Chaînette. Et vous voyez ici cet appendice des Brotteaux qui va être défendu mordicus jusqu'à la fin du siège. Vous avez ici la guillotière qui commence à se bâtir. Donc au fil du temps, les conventionnels vont installer des canons. Si on ne peut pas prendre une ville, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la bombarde. Et très rapidement, ça va être le déclenchement du bombardement. Bon, le 10 août, on fait encore la fête. Et donc là, effectivement, là, j'avais marqué les installations. Le Reverchon et Javogne, qui arrivent par l'ouest, vont s'installer au château de la Barolière. Voilà la Barolière à Limonest. Le général Kellermann et Dubois-Cancé, eux, ont établi leur quartier général au château de la Pape. Et voilà donc le château de la Pape. Et ils vont même établir un pont de bateau sur la Saône pour pouvoir aller sur la rive gauche du Rhône plus rapidement. La porte assistée du général Vaubois va s'installer au château de la Ferrandière à Villeurbanne. Le château de la Ferrandière, c'est un château qui a été détruit il n'y a pas très longtemps. Il a dû être détruit en 1930, c'était un joyau et c'est dommage que la ville de Villeurbanne n'ait pas conservé ce bâtiment. Alors du 10 au 12 août, à Paris, on se remue, on a démembré Saône-et-Loire, on a créé le nouveau département de Loire, qui va reprendre les trois districts qui formaient le site Vent-Forez. Et le 12 août, pour isoler Lyon, on crée une municipalité à la Guillotière, vous avez vu dans la peinture ce que j'ai montré tout à l'heure. 14 août, le général Grandval, ancien capitaine du régiment de Bourgogne chargé de la défense importante de la redoute dite Maison Panteau à la Croix-Rousse, reçoit les sommations des représentants du peuple. Il introduit le commissaire des guerres, M. Paris, qui est un des officiers de l'état-major de Kellermann, et ils vont discuter avec lui, mais on ne va pas trouver d'accord. On va même faire une publication pour dire que c'est pas possible d'être d'accord. Et donc, à partir du 15 août, surtout avec un sommet le 22 et du 22 au 24 août, c'est le bombardement de Lyon. Donc, vous avez tous vu ces gravures du bombardement de Lyon avec les canons qui tirent sur la Croix-Rousse et qui bombardent la ville, sachant qu'il y avait même des canons au sud de l'Étoile. Il y avait même des canons à la Mulatière et surtout à la Duchère qui ont pu, conjointement avec les canons du Bois-Cancé, tirer sur la Croix-Rousse. Mais aussi à la Guillotière, donc il y avait des canons. Donc on a tiré en tout plus de 50 000 projectiles, dont 28 000 boulets, 12 000 bombes et 6 000 cartouches à balles pour canon. Donc vous voyez que ça a fait du dégât. Voilà la position des... Vous voyez toutes les flèches qui montrent les tirs des conventionnels et des insurgés. Louis-François de Précy, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Eh bien, il bouge à l'intérieur de la ville avec ses cavaliers pour aller aux endroits où il faut éteindre l'incendie. Il est relativement actif dans son action. Et détail pittoresque, l'Hôtel-Dieu va servir d'hôpital pour les insurgés, pour les Lyonnais, mais aussi pour les Républicains. Détail sordide, les Républicains envoient des blessés par le Rhône, par bateau, mais ils ne veulent pas les récupérer. Ce qui est assez astucieux, en se disant ça leur fera des bouches à nourrir et ils seront obligés de se rendre beaucoup plus rapidement. Alors pendant ce temps, la colonne qui est dans le Forez continue à travailler, mais l'un des deux chefs, l'adjudant général Servan, qui contrôlait la vallée du Gier, se fait prendre en embuscade par un général conventionnel, Valette, qui venait de Limonest, et il est amené devant Dubois-Crancé et fusillé sur le champ. Vous voyez, on ne fait pas de quartier chez l'ennemi. Est-ce que c'est un résultat des bombardements? Mais l'explosion de la poudrière de l'Arsenal le 24 août 1793 va poser un grave problème. Alors on hésite entre l'attentat et le bombardement. C'est plus probablement simplement un accident, mais ça va être relativement grave pour les insurgés puisqu'ils vont manquer de munitions. Alors, un nouveau personnage va apparaître, il s'appelle Dopey, il vient d'être nommé général de Brienne. C'est un homme assez curieux, c'est un médecin d'origine, mais il était lieutenant-colonel dans la garde nationale de Chambéry, et c'est lui qui a amené la Savoie à la Convention. Il est arrivé à la Convention, il a dit à Robespierre, voilà, nous les Savoyards, on en a marre des Piémontais, on veut devenir français et républicain. Alors à la Convention, ils ne savaient pas comment faire, ils l'ont remercié chaleureusement, ils l'ont renvoyé à Chambéry, et puis finalement, peu ou prou, on a fait l'annexion de Chambéry. Et il est resté dans l'armée, et là, il est avec Kellermann, et il vient d'être nommé général de brigade. Le 3 septembre, Pierrin de Précy s'aperçoit quand même qu'il faut bouger. On fait une petite sortie au Brotteau pour tâter les défenses de l'ennemi. On va faire plusieurs prisonniers et on va quand même arriver à surprendre l'ennemi. Le bombardement a été tellement violent que vers le 4 septembre, les conventionnels n'ont plus de munitions. Les canons ont chauffé, il faut changer les canons, ils ont plus de munitions. Donc ils demandent une suspension d'armes pour quelques jours. Donc dans la nuit du 5 au 6 septembre 1793, Perrin de Précy va tenir un conseil de guerre. À 22h, il profite donc du calme pour réunir Madinier, donc le commandant général de la garde nationale, le chevalier Terrasse de Tessonnet, l'aide de camp du prince de Condé, qui est maintenant aide de camp du prince de Condé, et qui a réussi à rentrer dans la ville, et le comte de Virieux, qui est, pour sa compétence bien entendu, qui est l'ancien président quand même de l'Assemblée constituante, et puis il réunit évidemment les principaux chefs. Donc on va discuter. Et la discussion va s'envenimer parce que Thérèse de Tessonnet propose qu'on fasse un maquis en Forez. Le comte de Virieux propose de prendre le maquis en Forez. Et alors que Thérèse de Tessonnet dit non, il faut attendre l'armée Condé. L'armée Condé, elle est bloquée devant Wissembourg, mais elle va descendre par balle et ensuite arriver par le Jura pour délivrer la ville. Perrin de Précy et pragmatique, lui il dit non aux deux propositions parce qu'il se rend bien compte que ses troupes sont mal aguerries et qu'elles ne tiendront pas aussi longtemps. Donc évidemment on va le considérer comme défaitiste, mais en réalité il obéissait aux ordres de la municipalité. Le 6 septembre, là maintenant ça se précipite, il va quand même faire une attaque. Perrin de Précy va faire Perrin de Précy avait dans ses défenseurs le bataillon des vétérans. Ce bataillon des vétérans était sous la coupe de Sabaran de Chamousset. Il faut quand même que savoir que le baron de Chamousset avait 90 ans. Mais bon, il piaffait d'impatience, il voulait faire quelque chose. Donc le baron de Chamousset propose d'attaquer la redoute de la Tour Savagny pour enquiquiner les républicains et à partir de Saint-Irénée avec son bataillon de vétérans. Donc Perrin de Précy se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Il donne 500 hommes d'infanterie, 80 cavaliers et quelques canons, et ils vont appuyer la tentative de sortie. Malheureusement, deux escadrons du 5e de cavalerie vont leur tomber dessus. La surprise est manquée et la colonne va être obligée de retraiter. Mais enfin, les Lyonnais n'ont pas perdu trop d'hommes et ils ont montré quand même qu'ils pouvaient avoir un esprit offensif. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, les conventionnels lancent des brûlots sur le Rhône pour essayer de brûler de faire disparaître le pont Morand. Mais le commandant du poste de Saint-Clair, qui est le colonel Tourtouron de la Salle, saute dans une barque avec un rameur et il va arriver à éteindre la mèche. Il n'en reste pas là, les conventionnels. Ils vont lancer contre les moulins qui alimentent la ville. Ils vont lancer d'autres brûlots, et là, cette fois, c'est les mariniers qui vont parvenir à jeter les brûlots dans l'eau pour les éteindre. Alors, très curieusement, Tourlon de la Salle n'a jamais été remercié par la municipalité. Par contre, on a voté des subsides importants pour les courageux mariniers qui avaient réussi à éteindre les brûlots. Ceci parce que, évidemment, vous l'avez compris, Tourtouron de la Salle, ça faisait noble, donc on n'allait pas dire dans une ville républicaine qu'on félicitait les nobles. Le 10 septembre, maintenant ça, on arrive près de la fin, le comité des subsistances décide que chaque citoyen devra se contenter d'une livre de pain. Donc ça y est, c'est la famine. La ration de la force armée reste provisoirement maintenue à une livre et demie pour chaque soldat, y compris les officiers. Donc tout le monde au même régime. Et puis surtout, il n'y a plus d'argent. Donc le corps administratif va autoriser la saisie par les sections jusqu'à concurrence du quadruple de la contribution publique, les fonds et dépôts appartenant aux citoyens absents. Donc il ne fait pas bon d'être absent, on risque de se faire confisquer son argent. Le 13 septembre, un peu d'approvisionnement. Un officier d'état-major de Précy a réussi à ramener de Pitarard un convoi de bestiaux au nez à la barbe des républicains. Et un autre officier a réussi à acheter des grains dans les environs de Besnay et de Cheminet. Et on a envoyé des compagnies soldées pour les aider à rentrer et par Saint-Georges. Et ça a pu redonner un peu de nourriture pour la ville. Dans la nuit du 14 au 15 septembre, alors là, cette fois, Précy va prendre le commandement d'une action offensive pour permettre le retour de l'armée du Forêt. Il va prendre toutes les dispositions pour accueillir cette colonne du Forêt. À la Croix-Rousse, avec M. de Virieux et l'adjudant général Burtin, on va ouvrir un feu violent sur les positions de l'ennemi pour l'occuper. Et d'ailleurs, ça marche, puisque Guy Coustard, qui est le général qui commande en face, il envoie à son bataillon les chasseurs de l'Ariège, qui auraient été bien plus utiles autrement, sur la maison Panto et la maison Nérac, qui sont les deux postes avancés de la Croix-Rousse. À la Guillotière, toutes les batteries se mettent en marche et vont canonner les positions du général Vaubois. Et Précy va diriger la principale attaque avec 600 hommes et 100 cavaliers, donc 700 personnes au total, deux pièces d'artillerie contre Écully, en sortant par la porte de Vaise. Malheureusement, Rivaz va contre-attaquer, mais de toute façon, ça l'occupe. Et pendant ce temps, avec quatre bataillons, donc il va forcer évidemment la colonne du général de Précy à refluer. Mais pendant ce temps, guidé en direction du pont d'Alaï vers Sainte-Foy, la colonne Rimbert va arriver à Sainte-Foy sans être inquiétée par l'ennemi. et voici le retour du général Rimbert de Montbrison. Il arrive avec les Montbrisonnais, il arrive avec des soldats d'or en fort, et il arrive surtout avec des vivres et des munitions. L'accueil est frais, et ils sont quand même accueillis fraîchement par les Lyonnais, mais tout va rentrer dans l'ordre, on va se débrouiller pour nourrir et loger tout le monde. Évidemment, ça fait des bouches supplémentaires à nourrir, et puis surtout, ça va retarder la reddition de Lyon, et les Lyonnais, quand même, ressentent durement la dureté du siège. Donc, ce général, il s'appelle Rimbert. Il est sous un faux nom, il a été capitaine en 1787, il est chevalier de Saint-Louis en 1791, et il a démissionné de l'armée en 1792. Et détail intéressant, il fréquente l'hôtel du vieux baron de Chaboussay, qui est place Bellecour, et où on discutait pas mal le soir avec les anciens officiers. C'est peut-être pour ça que le mess-officier s'est installé à place Bellecour par la suite. Le pauvre a été arrêté à Sensey, il avait réussi à sortir en armes de Lyon et il a été fusillé sous un faux nom le 25 octobre 1793 à 43 ans. Mais les républicains ne savaient pas qui c'était, voilà la maison d'origine. Châteauneuf-Randon arrive avec encore d'autres renforts, il arrive avec 12 000 hommes et ça va permettre de boucler à Oullins et l'encerclement est terminé. Le 20 septembre, notre ami Dopé, ben oui, on monte sa bande vite chez les Républicains, il est général de division et commandant de l'armée des Alpes. Kellermann va être licencié. Voilà notre ami Dopé, maintenant, il a ses épaulettes de général, il n'a plus ses épaulettes de colonel. Donc l'armée qui est autour de Lyon maintenant est forte de 49 000 hommes et de 25 000 réquisitionnés. Donc ça fait plus de 70 000 hommes. Elle est partagée en différentes colonnes de 1500 hommes. Il y a 8 000 hommes de troupes réglées, donc ce sont des volontaires. Mais il y a 25 000 hommes de troupes de réquisition qui sont mal armés, donc qui sont vraiment pas très, très utilisables. Et quand même un bataillon d'actifs qui est du 23e RI. Le 23e RI, c'est l'ancien régiment de Lyon. Soit un rapport de 6 contre 1. Maintenant, on est à 6 contre 1 dans la bataille. Donc, l'issue ne fait pas de doute. Donc, le 24 septembre, Dubois-Cancé fait la tournée de ses postes. Il fait en portée de vice-force à minuit la redoute d'Oullins qui empêchait qu'on arrivât sur le flanc droit de Sainte-Foy. Et le même jour arrivent les ordres de Paris destituant le général Kellermann. On a trouvé qu'il n'avait pas été assez efficace. Voilà le vainqueur de Valmy dans ses œuvres. Vous voyez, il a le regard triste, il a la ville de Lyon derrière lui. Et il est donc remplacé par le jeune Dopé. Donc voilà la situation au 25 septembre. Vous voyez qu'on a encore des défenses. Les combats vont reprendre. Mais les morts deviennent nombreux. Le général Grandval est blessé. Virieux prend le commandement à sa place. Virieux donc avait accepté de combattre qu'en simple soldat. Et donc il devient général commandant les forces de la Croix-Rousse. Donc voilà notre ami François Comte de Virieux. Il a 39 ans. Il a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, colonel commandant un régiment. Et c'est lui qui va commander l'arrière-garde qui sortira de Lyon. Donc le 26 septembre, le général Dopé arrive, la fin est proche, il inspecte immédiatement les positions, il va au camp de la Ferrandière avec le général Vaubois, il va au camp de Limonest voir le Reverchon, il va avec Châteauneuf-Randon et le général Rivaz pour observer depuis Champagne en bas la colline de Sainte-Foy, et là il reconnaît avec le général Rivaz tout le terrain depuis la Duchère jusqu'à Oullins, où le général Valette commande une colonne, donc on a une ébauche de manœuvre des Républicains, et Dopé donc remplace Kellermann. Alors un petit mot quand même sur Dopé pour le réhabiliter, on en parle toujours en termes négatifs. Alors que l'ordre de la Convention était de faire repartir Kellermann sur Paris, escorté et pratiquement enchaîné de poste en poste par une escouade de gendarmes, il lui accorde de partir avec sa voiture et son aide de camp, donc vous voyez qu'il est quand même magnanime. Un détail pittoresque sur notre ami Dopé, c'est que quand on avait, le 20 septembre 1792, déchargé le clergé de sa mission d'état civil, et où la nouvelle mode conviait les citoyens à rectifier leur état civil en s'affublant de prénoms n'ayant rien à voir avec la tradition chrétienne, le général Dopé signait Pervenche. Pour un général, Pervenche, c'est pas mal. Bon, c'était pas un sanguinaire, ni un militaire d'ailleurs, il était médecin à l'origine. Il avait compris, mais par contre, il comprenait vite. Il avait compris que la colline de Sainte-Foy qui dominait Perrache était la position clé pour se rendre maître de la ville et qu'il fallait la conquérir le 29 septembre. D'ailleurs, après cette prise de Sainte-Foy, la résistance de la ville sera désespérée. Et à la veille, tout à son honneur, à la veille de rentrer dans les murs, il va imposer à l'ensemble de ses troupes, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, d'avoir une conduite irréprochable à l'égard des habitants de la ville, interdisant tout pillage, exaction et toute vengeance personnelle. Mais trop modéré, il ne pourra pas éviter l'entrée en lice des tristement célèbres Fouché et Collot d'Herbois. Évidemment, il est général commandant l'armée des Alpes et il va partir se battre dans les Alpes. Donc il ne va plus s'occuper de la ville de Lyon. Un dernier mot sur Jean Gennes. Dans les derniers jours, il se fait emporter la jambe par un boulet dans la maison Panteau. Donc c'est l'homme clé de la situation sur la Croix-Rousse. Il va être amputé, mais ça va pas l'empêcher de combattre jusqu'au bout. Vous le voyez ici avec sa prothèse. Il va échapper à la répression. Et les républicains ne vont pas réussir à le débusquer. On arrive à la fin. Les trois combats du 29 septembre 1793. Doppé déclenche une fausse attaque à 4h du matin. Et à 5h du matin, il va attaquer Sainte-Foy. Sainte-Foy va être prise. Le pont d'Oulin va être pris également, et la chaussée de Perrache également. Mais contre-attaque du général de Précy qui va permettre de reprendre la chaussée de Perrache, qui va reprendre Sainte-Foy, mais qui va être obligé de se replier en milieu d'après-midi. Vaubois s'empare des Brotteaux, mais il en est chassé. Donc voilà les derniers combats. On est au bout de la résistance. Voilà le combat du terrain de Perrache. Voilà la journée du 29 septembre. Vous voyez au milieu le général Perrin de Précy sur son cheval au galop en train de charger pour dégager la chaussée de Perrache. Et c'est la fin. Voilà tout ce qui reste donc des défenses de Lyon. Donc la ville de Lyon est ramenée à sa portion congrue et donc les conventionnels sont de tous les côtés et la ville maintenant est prisonnière. Le calme va revenir pendant quelques jours puisque du 30 septembre au 8 octobre il n'y a pratiquement plus de munitions ni de vie dans la ville. Le général Doppé craint quand même une sortie d'une colonne pour faire une nouvelle Vendée dans le département et il prend ses dispositions. Il va mettre un adjudant général dans l'Ain pour tenir les gorges de l'Ain à Saint-Rambert et à Pierre-le-Châtel. Il va envoyer le général Leger dans l'Isère et un général dans le département du Mont-Blanc pour empêcher toute sortie. Et puis il va décider effectivement l'assaut final. Donc averti d'une tentative de sortie, il ordonne une surveillance générale. Malgré ses ordres, une redoute à Saint-Just est prise dans la nuit du 8 au 9 novembre, probablement suite à une trahison. Et effectivement, conseil de guerre chez Précy, à l'état-major de Précy. Le comte de Virieux aurait souhaité sortir le 8. On a retardé au 9. Pourquoi ? Probablement, on voulait que l'évêque dise une dernière messe. Et ce jour de retard a fait que l'effet de surprise escompté n'est pas arrivé. Et c'est l'abbé Forestier qui va dire la messe. C'est en fait, moi, l'abbé Forestier, c'est Monseigneur de Villiers qui est l'évêque de Troyes. Et on est le 9 octobre au matin. Et surtout, la colonne qui est organisée par Précy pour sortir, à peu près 2000 hommes, avec une avant-garde, un corps de troupes au milieu et une arrière-garde qui sera commandée par le comte de Virieux. Et malheureusement, deux canons. Ces deux canons vont freiner la vitesse de la colonne et finalement, presque la colonne entière va être anéantie. Donc le 9 octobre, pendant que par la porte de Vaise, Précy sort avec ses hommes, le général Doppé entre dans Lyon avec le représentant Châteauneuf-Randon. Il refuse de loger les soldats chez les citoyens, privilégiant les casernes, la place des Terreaux et la place Bellecour. Vous voyez que là, le premier jour est correct. Il établit des corps de garde dans les rues, il met des piquets sur les places, et il nomme un général gouverneur, le général Petit Guillaume, et ordonne le désarmement des citoyens sous les ordres de l'adjudant-chef général Blondeau. Pendant ce temps, Précy et ses hommes remontent le long de la Saône, vont essayer de couper par le Beaujolais. L'objectif initial, c'était de franchir la Saône le plus vite possible, de passer par la Donde et de rejoindre la Suisse, bien entendu. Mais lui aussi était presque dans l'épicentre des forces conventionnelles. Et donc, pressés de toutes parts, ils se sont échappés par le Beaujolais et la colonne a été décimée tout au long. Et vous le savez, notamment par les paysans qui attaquaient les Lyonnais en retraite dans les monts d'Or. Pourquoi ? Parce que simplement, vous savez que les Muscadins mettaient leurs pièces d'or dans leur ceinture et donc... certaines fortunes datent de cette époque, dans cette région. Et il y a un village qui est fortement entaché de crimes de guerre, dont je ne parlerai pas, puisqu'il y a un livre qui a été écrit, qui a été fort mal reçu. Alors on va publier un procès-verbal, évidemment, une convention. Vous savez la suite, Couthon va arriver, va déclarer que la ville doit être rasée, il va donner un coup de marteau en argent sur les façades de Bellecour en leur disant « je te condamne à être démoli ». La suite, vous la connaissez. Alors vous voyez, la démolition des façades de Bellecour, c'est intéressant de voir que pendant ce temps, on vole les meubles. Ce serait dommage quand même de laisser démolir tout ça. Voilà, ça c'est une plaisanterie, c'est la démolition de Lyon. Cette gravure laisse entrevoir une ville en ruine, mais pourtant les pierres ont plus souffert du siège et des bombardements que du décret. Pourquoi ? Parce que très rapidement, on s'est aperçu que c'était idiot de démolir les maisons, qu'il valait mieux les vendre. Économiquement parlant, c'était une meilleure opération. Voilà donc notre ami Collot d'Herbois qui pose sur les ruines de Lyon avec la République qu'il tient par l'épaule. Il manque pas de culot celui-là. Vous savez qu'il avait été acteur au théâtre des Célestins et qu'il, le pauvre avait été hué. Et je pense qu'il avait une dent contre les Lyonnais qui n'avaient pas apprécié sa prestation. Voilà notre ami Fouché qui va arriver. La suite, vous la connaissez. C'est la répression. Voilà notre bon Collot d'Herbois. Alors, il aimait bien se déguiser. Le voilà dans ses œuvres en proconsul de Lyon. Alors, la suite... Oula, qu'est-ce qui se passe ? Petit incident. Ah, mais si, il est toujours là. Le tribunal révolutionnaire siège sous l'hôtel de ville. Très rapidement, on est au bout de cette réunion. Voilà le tribunal révolutionnaire. Ensuite, les gens sont renvoyés dans les sous-sols. La cave de droite ou celle de gauche, je ne sais plus, je me trompe toujours entre la droite et la gauche, c'est les condamnés à mort. Et celle de droite, c'est ceux qui seront libérés. Voilà l'entassement des prisonniers. Alors on se plaint que les prisonniers sont trop nourris et ont trop de Beaujolais. Donc on va interdire aux Lyonnais de nourrir les prisonniers par les soupiraux. Ils ont faisaient passer de la nourriture, fort heureusement, parce que en plus, non seulement ils étaient prisonniers, mais en plus, il fallait qu'ils payent eux-mêmes leur repas. Donc vous voyez que c'était quand même pas très confortable. Voilà la guillotine sur la place des terreaux. Il y aura 2000 morts à Lyon par la répression de nos amis Fouché et Collot d'Herbois, 500 par le canon et 1500 par la guillotine, très, très grossièrement. 2000 morts pour 180 000 habitants, c'est à comparer à Paris, pour 400 000 habitants, il y a eu à peu près le même nombre de morts. Mais Collot d'Herbois et Fouché avait estimé que la guillotine ne travaillait pas assez vite, évidemment, c'était compliqué la guillotine. Imaginez, il faut dresser les voies de justice sur la place des terreaux, il faut amener les prisonniers, il y en a qui ont le culot de s'évader, il faut leur courir après, donc il faut mettre des gendarmes autour de la colonne de prisonniers, parce qu'ils ne viennent pas tous de la prison des terreaux, hein. Ils arrivent aussi de la prison de Rouen, qui est de l'autre côté de la Saône, alors donc c'est quand même compliqué. Puis surtout, il faut nettoyer la place, le sang coagulé, ça commence à attirer les mouches, c'est pas terrible. Donc l'histoire de la fusillade des Brotteaux, pour eux, ça leur paraissait très bien. Mais les premiers fusillés, ils étaient à peu près 200. Sur le coup, ont été tués à peine une vingtaine. Et on a demandé aux dragons du 9e dragon, du 9e régiment de dragons, de charger pour achever les blessés. Donc le soir, le colonel commandant des dragons est allé voir Fouché, qui logeait dans la maison de Tolosan, dans la magnifique maison de Tolosan de Montfort. Il semblerait même que Fouché ne regardait pas n'était pas présent aux exécutions, mais qu'il regardait à la lunette depuis la maison de Tolosan. Et donc il dit à Tolosan, il dit à Fouché, le général donc arrive avec son escorte, il dit à Fouché qui était en plein dîner frivole avec quelques coquines, et lui dit « Monsieur le représentant de la Convention, ce que mes hommes ont fait aujourd'hui, ils ne le referont pas demain. » Fouché lui répond « Écoutez, vous descendez dans la cave et on vous fusillera demain matin. » Il dit « Oui, mais j'ai un escadron devant la porte et si je ne suis pas sorti dans 10 minutes, il donne l'assaut. » Donc Fouché a dit « Bon, vous vouliez rejoindre l'armée des Alpes, alors allez-y. » Donc voilà une autre vue des mitraillades. Donc 209 victimes le 5 décembre. Et bon, finalement, on n'a pas continué. Donc vous connaissez le monument qui a été construit et qui a été construit depuis. Simplement pour vous dire que c'est Robespierre qui a sauvé Lyon, finalement, puisqu'en mai 1794, Robespierre est renversé à Paris. Mais entre-temps, il avait convoqué Collot d'Herbois et Fouché à Paris parce qu'il avait eu vent quand même qu'il se passait des choses atroces à Lyon. Malheureusement, Fouché a été beaucoup plus habile. Il s'est fait élire à la tête du club des Jacobins et il est devenu aussi puissant que Robespierre. Et Robespierre donc a été arrêté, puis libéré par la foule, re-arrêté et... un gendarme lui a tiré un coup de pistolet sur la figure, qui lui a emporté la mâchoire, et le pauvre donc a été guillotiné le lendemain. Alors la suite, pour qu'il y ait une morale, c'est la disparition des hébertistes le 24 mars 1794, voilà notre ami Hébert. La fin de Danton, le 5 avril 1794, voilà notre ami Danton. Mais alors regardez-le ici, il a le même costume que Louis XVI. Costume bleu. D'ailleurs, Robespierre s'habillait pareil, avec les bas en soie blanc. Mais lui, il était tellement corrompu que Robespierre ne pouvait pas ne pas s'en débarrasser. Et puis, le 27 juillet 1794, c'est Robespierre qui passe à la trappe. Quant à Collot d'Herbois, la justice va quand même passer. En avril 1795, avec Billaud-Varenne, il va essayer de faire un complot contre un nommé Bonaparte, et ça va mal se passer. Il est déporté en Guyane, et il va attraper froid, il va se soigner en avalant une bouteille de rhum entière, et il va mourir dans d'atroces souffrances. Donc voilà la fin des méchants. Voilà, j'ai à peu près terminé, je vous passe sur la suite. Vous savez qu'après, il y a eu la réaction des Blancs. Donc les Jacobins en ont pris pour leur grade dans les années 1795 et suivantes. Et donc voici le magnifique palais de justice qui a précédé les 24 colonnes. À gauche, vous avez la partie qui était réservée à François Ier. Vous comprenez pourquoi il a préféré les châteaux de la Loire. Voilà, je suis à votre disposition. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long. Mais cette conférence a été faite déjà il y a quelques années au Cercle de l'Union. Mais je pense qu'il fallait y rattacher tous les événements dramatiques qui sont passés avant pour comprendre comment s'est déroulée la philosophie de ce siège. Je vous remercie de votre attention. Je suis...